C'est l'heure de la maraboutique.
Manu Dibango sur Africa numéro 1, la maraboutique.
Mara boutique du dimanche matin, Tito.
Cette Bastille, nous la prenons avec du décongestionnant, comme déjà en première partie. Alors il faut dire, de Manu, c'est quand même étonnant, parce que moi je me suis posé la question, mais si je devais aller sur scène pour faire un spectacle, comment est-ce que j'allais faire? Tu as une méthode?
Quelle scène? Celle qui en ce moment déborde ou bien?
Ah ben non, surtout pas celle-là, elle m'a causé trop d'ennuis. Mais si je devais aller donner un live, si tu vois pareil.
Écoute, c'est un plus, hein, parce qu'on va dire qu'il a trouvé quelque chose. Il y a un petit chat qui se balade, il a dû adopter un chat. À l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre.
On imagine quand même, parce qu'aujourd'hui où tout doit être... Bon, il y a beaucoup de playback, hein, de toute façon. Mais on
ça,
imagine
c'est le plan B. Hein.
Le plan B, mais on imagine la belle époque, la grande époque, quand la calasse avait un rhume au Oum Kalsoum.
Ah ça ben ouais, un ouais, désastre. Ben ça c'est c'est un cas de force très, 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 très méchamment majeur. Hein, parce que quand un chanteur surtout, hein, parce que les instrumentistes, bon, tu peux me dire que bon, c'est difficile de tousser dans le saxo quand même, hein, mais si tu as une toux, est-ce qu'elle passe? Voilà une question que je me suis jamais posée quand même, parce que j'ai été enrhumé, il y a beaucoup de trompettistes, mais au moment de jouer, on dirait qu'il y a un souffle-conduit là, tu vois. On est immunisé pendant une heure. Le temps que les trucs se passent et tout ça, et puis ça revient après. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. On annule, hein, je veux dire, dans le temps, on annulait ou bien on avait une doublure. Maintenant, il y a des plans B, il y a longtemps que le playback passe beaucoup, donc les gens ne seraient pas étonnés. Sauf si entre les deux trucs, tu tousses.
Alors, faudrait demander à Jay-Z et Beyoncé qui vont affoler une certaine génération. Ils vont jouer le 14 et le 15 juillet. Et Beyoncé, à ceux qui ont critiqué des parties en playback du spectacle, eh bien, elle a des impresarios qui ont répondu « Oh, ben écoutez, elle ne peut pas non plus chanter, danser et sautiller en même temps. »
Oui, ça, mais maintenant, nous avons nos Aladé, nous avons nos Charlotte Dipanda, bon, donc, et Beaufort. Ce qui arrive, arrive. On est paré. Le plan B, pour nous, en ce moment, il est en train de devenir le plan A. Donc, on leur souhaite bonne chance, mais pour l'instant, on se régale avec ces deux-là.
Et oui, ces deux-là, et puis dans peu de temps,
Doyamanou, d'autres.
Et d'autres aussi, ils sont nombreux. On va se régaler avec tous ces trésors que tu nous as amenés du Kenya. Alors, Tito, il est en train de plonger dedans avec délectation. Quand je vois ces livrets de la collection que tu as ramené, je me dis...
Inconnu ici quand même.
Hein, inconnu au niveau de la France.
Ah ouais,
alors, Ketebul Music, qui est une organisation qui a décidé de dépoussiérer des œuvres du Kenya et la musique du Kenya. Alors, elle commence vraiment way back. C'est vrai que c'est une influence en mode trad mode, parce qu'on connaît nos amis Maasai qui sautillaient, qui font des polyphonies.
Oui, et puis alors, des photos d'époque, des photos qui datent du début du siècle et tout ça. C'est vraiment, c'est terriblement bien fait en noir et blanc. Nous avons aussi maintenant notre façon de lire, en tout cas, les histoires des musiques africaines, tout au moins celles du Kenya, parce que encore une fois, on connaît le Kenya comme les coureurs de fond. On savait pas qu'ils avaient aussi une musique de fond.
Et cette musique, il y a des photos où on croirait voir apparaître parfois Kabasele ou les autres. Ouais. C'est vrai que cette période des 60s, des 70s, elle a été la même partout en Afrique. Mais alors les anglo-saxons, du moins les gens qui ont été colonisés par les anglophones, ont ça quand même de particulier, comme Stearns à Londres, qui sont très bien documentés en matière de pochettes, comme le faisait Feu Ibrahima Sylar.
Ben ça, c'est notre misère à nous, c'est que la communication ne passe pas entre nos pays, parce que toutes ces richesses-là, elles appartiennent à un pays, elles restent là-bas. Si tu ne voyages pas pour avoir un truc... Quand on parle quand même de problèmes de distribution dans le commerce, ça, c'est un bel exemple. Ces musiques-là, si je n'avais pas été au Kenya, on ne saurait pas que ça existe. Donc, il faut voyager, mais il faudrait que les marchandises dans l'OUA puissent voyager également.
Attention aux lois entre les frontières, on y retrouve des histoires, celles de Joseph Kamaru et Dio Misiani qui sont un peu l'équivalent de Taboulé et Franco dans leur musique. Et puis il y a aussi un récit exceptionnel que moi j'avais lu sur les cow-boys du Gatanga, notamment Mouriou. Alors Mouriou qui est un vieux loup aujourd'hui et qui
c'est et un qui peu a son Johnny, chapeau cow-boy quand même. Hein.
C'est un peu le Johnny local, il a le perfecto en cuir et puis il danse avec ses bottes, il y a un bruit. Un son qui font avec les
qui la résiste d'ailleurs.
C'est quand même pas mal.
Moi, je sais que l'Afrique est riche, il n'y a que elle qui le sait pas, quoi. Parce que finalement, plus tu voyages en Afrique, plus tu trouves des trésors. Mais ces trésors, elles sont toujours empaquetées dans un pays. Et on n'arrive pas à avoir une vision d'ensemble. Et peut-être que le rêve et le vœu qu'on souhaite, c'est quand même que la communication soit beaucoup plus efficace dans nos pays, quoi. Parce que tout ça, c'est des trésors.
Des trésors qu'on vous fera partager bientôt. Et puis tous les dimanches, dans notre Mara, on évoque des œuvres, des fois des peintures, des spectacles de danse et des fois des livres.
Ouais.
Et un livre dont le titre, alors, nous a pas laissé indifférent, même Stéphanie Hartmann nous en a parlé, parce qu'il a eu à parler d'ailleurs, ce monsieur, au micro du Sieur Lalupo et de beaucoup d'autres
sur la radio. On en est déjà à la vengeance d'Aïcha Kadhafi, hein. Ça va
déjà.
Vite, hein.
Déjà.
Ben ouais, c'est-à-dire, ça, quoi, ça va très vite. Le temps d'écrire le livre, le temps que, les vérités commencent à sortir une après l'autre. Elle a eu le temps, elle, d'écrire ce livre-là. Il y a probablement pas mal de vérités dedans. Achetez-le, vous allez comprendre.
Alors, une transposition, en tout cas, parce qu'on se dit, et cette énigme place la fille du guide en plein milieu, et ce coup de plume, une fois encore, le droit à notre confrère natif de Douala, au Cameroun, ayant habité à Libreville et exercé sur les ondes d'Africa numéro 1. Mais c'est d'abord un sacré Red Chef pour Afrique Diagnostic, et un écrivain et un journaliste éminent, c'est Mouftaou Badarou, qui est avec nous ce dimanche. Comment vas-tu, l'artiste?
Ouais, je vais bien. Éminent, je sais pas trop, hein. Mais bon.
Bah, dis donc,
disons
pas
quelqu'un
semblant,
de passionné,
hein.
Quoi.
Sinon, j'appelle Francis.
Non, mais toi, tu peux pas le dire, mais lui, il peut le dire.
Alors, pourquoi on le dit? Parce que tu es quand même multiple. Mais déjà, éminent, parce que je t'envie toujours d'avoir gagné.
Ça ne te rappelle pas le Billet, ça?
Ah, ben si, aussi, Serge Billet, qui est prolifique.
Tout à fait, oui.
Je t'en veux toujours d'être champion de Scrabble, hein. Tu sais que c'est toujours mon litige. Avec toi, elle était champion du Bénin de Scrabble, des jeux et des lettres à la télévision.
Oui,
mais tu es surtout quelqu'un qui écrit et qui nous plonge au cœur des aventures d'un agent secret. Et là, c'est en trois volets, c'est le troisième volet, déjà.
C'est une série qui va se poursuivre. Et puis, de toute façon, là, je suis en train d'achever le numéro 4. Non, mais c'est une série comme James Bond, comme Malcolm Lingay de Gérard de Villiers, tout à fait.
Alors, dis-nous un petit peu cet agent secret dont tu vas rappeler le nom. Et qui finalement sort d'où et à quel moment de ton imagination?
Non, c'est un agent secret que j'ai esquissé le personnage en 2014, quand j'écrivais Panique à Cotonou, justement. C'est un agent secret, originaire du Bénin, comme moi. C'est Badarou Mouftaou.
Qui porte beau
héroïsé.
Aussi, comme toi.
Qui aime les beaux costumes, tout à fait. Qui est amateur de femmes, mais attention, il est fidèle. Voilà, il est fidèle, il fait l'amour qu'à une seule femme.
Un Béninois volant, quoi.
Donc voilà, donc... Jimmy Boris, agent de la DGSE. Pourquoi la DGSE? J'aurais pu choisir agent de la DGSI, mais si je choisissais agent de la DGSI, j'allais circonscrire les aventures de Jimmy Boris à la France, étant donné que la DGSI protège les intérêts,
oui.
Voilà, à la légitimité d'intervention sur le territoire français. Donc, agent secret de la DGSE, parce que comme ça, je peux plonger mes lecteurs que j'espère fidéliser. Dans les aventures de Jimmy Boris sur les 5 continents. Donc les aventures de Jimmy Boris, bien sûr, ça va se poursuivre et il y aura encore d'autres aventures palpitantes, tout à fait.
Alors tu avais commencé par deux autres endroits, parce que là on va revenir dessus. On est plongé au cœur de Paris, quand même, cette scène à Saint-Lazare que personne d'ailleurs ne veut imaginer, mais tu avais déjà frappé fort quand même avec deux autres épicentres de ton intrigue qui avait fait lever les sourcils aussi à l'époque.
C'est une technique d'écriture. Pour fidéliser le lecteur, il faut le prendre aux tripes, comme on dit. Je campe à dessein, bien évidemment, une scène d'attentat terroriste sur la place Saint-Lazare, en plein Paris. comme ça je prends le lecteur au trip et je maintiens le suspense jusqu'au dénouement. Parce que le dénouement de ce numéro 3 des aventures de Jimmy Boris, le dénouement est précisé justement à la fin du roman. Voilà.
Alors on va pas le révéler, mais quand même tout le monde s'est dit attentat, Saint-Lazare, etc. Tu as eu des coups de fil de la DGSE?
Non, pour l'instant non. Mais, enfin, j'espère bien. Pourquoi pas?
Ben, moi, donc, on se rappelle de l'attentat du Maroc là.
Ben, tout à fait.
Hein, le Marocain.
Lorsqu'on en parle et lorsqu'on évoque ça, c'est ils peuvent t'arrêter à titre préventif ou pas?
Non, je crois pas.
En disant livre-nous des infos.
Je ne pense pas que un aspirant terroriste puisse passer à l'action juste en lisant mon roman. Je ne pense pas.
Oh, parce puis que, la liberté d'expression, hein, ça fait partie de la liberté d'expression, ça quand même.
Aussi, ouais, tout à fait.
C'est un artiste.
Parce que les terroristes, ils sont abreuvés sur Internet, hein. Ils n'ont pas besoin de lire un roman avant de passer à l'action. Voilà.
Et alors Aïcha Kadhafi, dis-nous, parce qu'elle reste cette figure du clan Kadhafi, quand elle est en couverture, les gens pensent à un livre, à un énième livre de ceux qui écrivent généralement sur les situations politico, etc. Pourquoi elle et peut-être pas, je sais pas, un autre membre de la famille
frangin.
Oui, peut-être aussi.
Pourquoi elle? Parce que déjà, c'est la seule fille du guide libyen. Mmh. Voilà. Et puis j'ai visionné quelques-unes de ses vidéos. Et,
elle le sent terriblement quand même.
J'ai vu quelques-unes de ses vidéos où elle s'est montrée notamment intransigeante, très intransigeante et inflexible à l'époque de l'affaire dans laquelle avait trempé son frère Hannibal à Genève. Voilà, donc ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais tiens, c'est une femme aussi intransigeante, aussi inflexible, ça peut être bien, n'est-ce pas? Ça peut interpeller le lecteur de construire une fiction, de bâtir une fiction autour de son personnage. Voilà.
Autre question, et t'as pas appelé?
Non, enfin, j'espère bien qu'elle m'appellera. non, j'ai pas eu ce privilège. Pas encore, j'espère.
Il n'est pas trop tard. Hein.
Beaucoup de personnes, effectivement, ont soulevé cette question, m'ont dit, mais attends, Badarou, ben, écoute, on pense qu'elle va t'appeler ou au cas contraire, mais pourquoi tu lui envoies pas un exemplaire de ton roman? Je dis, non, c'est pas le but. Hein. Aïcha Kadhafi, c'est juste un alibi pour moi. Moi, le but, c'est de fidéliser des lecteurs francophones. C'est d'abord ça, des lecteurs comme le grand Doyen Manou, comme le grand Robert Braza, voilà.
Alors, 1m98, j'écris pas comme toi, hein, quand même. Les services secrets, on avait parlé des 2014 et 2015. Là, tu reviens 2 ans et demi, 3 ans après. C'est que celui-là, il était plus difficile à écrire que les autres. Parce que là, on est quand même dans le cadre de, ben voilà, la toile de fond, elle est compliquée. L'affaire est encore en cours, on peut dire. Il y a plusieurs ingrédients, en plus.
J'ai mis du temps à l'écrire parce que, non. En fait, j'ai pas mis beaucoup de temps à l'écrire. Au contraire, j'ai mis du temps avant de commencer à l'écrire. Après 2015, je voulais pas écrire n'importe quoi parce qu'il fallait continuer de maintenir cette fidélité des lecteurs. Donc, je cherchais mes idées et j'ai pris le temps. Moi, je lis beaucoup. J'ai pris le temps de beaucoup lire, de beaucoup visionner des vidéos justement sur YouTube. Et quand l'idée m'a pris, je me suis mis à écrire, voilà. Donc, tant que j'ai pas la bonne inspiration, moi, j'écris pas, quoi.
Est-ce que ça t'intéresserait que ça passe en image après?
Ah, moi, j'aimerais bien. Ah, je suis open. Je suis open, d'autant plus que je promets au lecteur, le prochain numéro, là, il est encore plus poignant que celui-là. Hein. Ah, je vous assure, ça va faire des vagues.
Hein. Et donc, ça donne à manger quand même à nos réalisateurs, parce que maintenant, on a nos écrivains pour écrire nos histoires policières. Eh ben, il faudrait qu'il y ait des réalisateurs également qui entrent en jeu, quoi. Qui suivent après, parce que bon, il y a l'écriture, mais cette écriture-là qui est palpitante, elle peut être palpitante à l'écran.
Il y a un des chapitres, d'ailleurs, dans l'œuvre, moi, j'en étais à ce chapitre 10, qui est carrément pictural, où on assiste à une scène, une sorte de face-à-face avec Aïcha Kadhafi, qui revient, d'ailleurs, pas sur les motivations pour lesquelles elle veut, en tout cas, poursuivre et... voilà, aller jusqu'au bout de la vérité concernant la mort de son père, où il y a un échange, où il y a un dialogue qui est assez incroyable, où tu l'as décrit au détail près, les battements de sourcils et tout. Et la fin de ce chapitre termine par ceci. « Mon cher Jaber, prie le ciel de t'épargner la vengeance d'une femme, car si blindée que soit ta cuirasse, la femme vindicative y décèlera un défaut pour faire de ton corps un champ de bataille. Alévi doit payer, et je te jure qu'il paiera pour nous avoir fait orphelins. » Et quand on lit, je me suis dit, mais Mouftao, alors, ou bien alors, il travaille dans un grand hôtel en Europe et il l'a croisé, mais elle apparaît comme sur la couverture de ton livre, elle prend forme.
C'est une technique d'écriture, hein, tout simplement. Les écrivains, ceux qui sont à l'écoute, et les écrivains qui sont à l'écoute, ils me comprendront très bien. Voilà. Donc, se met dans la tête, en fait. Je me suis mis dans la tête d'Aïcha Kadhafi, pour restituer ses sentiments. Voilà. Je me suis dit, mais attends, si elle est en face d'un interlocuteur, qu'est-ce qu'elle pourrait dire à cet interlocuteur? Voilà, ouais, comme ça, voilà. Donc, l'inspiration vient, en fait.
Tu vois, le Scrabble, il ouvre l'imagination. Comme il est spécialiste de ça, on peut transposer beaucoup. Voilà, c'est la stratégie.
Tout à fait. Oui.
C'est comme les joueurs d'échecs, hein, c'est pareil. Hein.
Tout à fait. Voilà. La difficulté, enfin, pas la difficulté. Ce qui est bien pour un écrivain qui fait quand même attention à ce qu'il écrit, c'est la façon de la maîtrise dans le maintien du suspense. Ouais, c'est pas évident, mm-hmm. hein. C'est vraiment
en
pas évident.
En passant d'un espace à un autre, hein.
Ouais, tout à fait.
Un coup, on est rue de Budapest, après, on se déplace, on dirait que toi-même, tu as sillonné.
Oui.
Tu connais bien aussi ces endroits, mais quand même, là, ils apparaissent.
Absolument. Ah non, ça, c'est évident, hein. Tout ce que vit mon agent Jimmy Boris, si vous le voyez, attablé, je sais pas, moi, à la Gare du Nord, ou être en train de manger dans un restaurant, soyez sûr que Badarou, il a fait le même parcours, hein. Non, ça, c'est évident. J'ai pris cette précaution pour mieux restituer ce que peut ressentir, ce que peut voir Jimmy Boris, quoi, évidemment. C'est une technique d'écriture aussi, hein. Que beaucoup pratiquent, hein. Gérard de Villiers, il ne fait pas autre chose, hein.
En fait, il allait sur place.
Absolument. Lui, hein. Il n'écrivait jamais de roman sans avoir mené une enquête auparavant. Absolument.
Tu as été chef de la programmation à Africa Numéro 1 à Libreville, jusqu'en 2000, je crois. Est-ce que, à ce moment-là, déjà, parce qu'au niveau de la radio, il faut aussi, il y a cette culture globale, il y a plein de choses, tu étais au cœur de l'affaire, on était quand même au Gabon. Est-ce que là-bas déjà, ces aventures ou ces péripéties, le fait de vouloir écrire, tu avais des manuscrits déjà sous le coude?
Tout à fait. Quand j'étais à Africa numéro 1 à Libreville en 1996, de 1996 à 2000, j'écrivais beaucoup de poésie et de nouvelles.
Et de nouvelles.
Mais j'écrivais pas encore de romans. Beaucoup de poésie, de nouvelles. Les nouvelles, j'ai gagné 3 prix littéraires avec les nouvelles, un prix littéraire avec la poésie. Après m'être établi à Paris, je me suis dit, je peux franchir un autre cap dans l'écriture. Donc, je suis passé à l'écriture romanesque. Voilà.
Et ça te va plutôt bien. Alors, Mouftao est avec nous, Doyen Manou. Et puis, en attendant que nos auditeurs se procurent ce livre qui est édité dans
abondamment, quand même. Hein. On peut le trouver à la FNAC et tout ça.
Pas encore. C'est la présence africaine. Mmh. À Lamartin.
Il faut le bien
et dans
le
quelques
préciser.
Voilà, dans quelques kiosques à journaux à Paris, mais je suis en négociation avec la Fnac justement pour rendre accessible ce roman au lecteur, mais pas seulement avec la Fnac, je suis aussi en négociation avec des libraires en Afrique.
Oui, bien sûr.
Exactement, en Afrique, au Canada, absolument au Québec, en Suisse et en Belgique.
En tout cas, précipitez-vous à présence africaine. D'abord, ça fera plaisir à la dame. Hein.
Et oui, Madame Diop, qui est une très grande dame.
Il n'y a plus beaucoup, il n'y a plus tellement des Africains, des étudiants qui vont chez elle. Ouais. Tout le monde va plus facilement à l'Harmattan. Je ne fais pas la publicité, mais j'en fais quand même.
Deux fois en plus, ils nous font grand bien.
C'est vrai que ça lui ferait plaisir si vous allez là-bas, et surtout pour lire Badarou, hein, parce que on n'a pas tellement d'écrivains en suspense. Hein.
Panique à Cotonou était le premier volet.
Tout à fait.
Putsch à Libreville. Alors ça, je m'en souviens, parce que quand même, d'aucuns s'étaient dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? On a eu un petit peu peur pour toi. Hein. En disant Putsch à Libreville, d'où lui est venue cette idée? Il y avait déjà Péan dans l'air, et quand tu arrives avec ça, bon là, par contre, on a un peu froncé les sourcils de ce côté-là. Hein.
Putsch à Libreville, parce qu'à l'époque où j'écrivais Putsch à Libreville, vraiment, on va dire que la crise gabonaise était vraiment à son paroxysme. Et effectivement, dans les rangs des opposants, beaucoup en appelaient à un coup d'État au Gabon. Un écrivain, il faut lire, il faut écouter la radio. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté la radio. Je me suis dit, mais attends, tiens, comme tout le monde en parle, pourquoi ne pas...
Mais t'es un ancien en plus de la radio, donc ça faisait un peu beaucoup.
Je me suis dit, comme tout le monde en parle, pourquoi ne pas construire...
Bientôt, Péan va se jeter un petit coup d'œil sur toi, non?
Pourquoi pas? J'espère bien.
Alors, tu es avec nous ce dimanche, et puis il y a cet ouvrage, mais il y a aussi ce que toi, tu écoutes, un mélomane, parce que vous parliez en micro du Doyen Manou, de tout ce que toi, tu appréciais comme musique, déjà aussi, avec, tu disais, ton papa qui a encore une maison du côté de Douala, au Cameroun, et en fouillant dans la bonne pioche, bon, on est tombé sur un King Sunny AD Synchro System.
Ah oui.
La Juju Music.
Ah ben dis donc, ah ouais, ça c'est ma culture ça. Je vibre, voilà, de toutes mes fibres quand j'écoute.
Ah ouais, c'est le pendant de la Bélé chez nous en
absolument,
fait.
Absolument.
Bélé, c'est Adaïdo.
Tout à fait.
C'est terrible, hein, cette musique elle est prenante. Ce gars-là, il a failli me rendre fou un jour. J'étais avec Boukilo, père à son âme. On avait été le voir Place Ballard. C'est la première fois que Sony venait en oui. France. Avec tout ces talking drums là.
Ah oui.
Oh mon Dieu, nom de Dieu. Ah mais oui. C'était la folie. C'était la folie partout. Même moi, j'étais fou. Alors, en général, je suis très lucide quand j'écoute la musique. Mais il m'a eu, quoi. Je suis rentré dans le système, le synchro-système.
Ouais. Avec, évidemment, Martin Messonnier qui était dans le coin.
Ouais. Eh ben, c'est l'un des gars d'ailleurs qui a travaillé, qui a œuvré pour la connaissance de la musique africaine de cette époque-là. Il a travaillé beaucoup avec non seulement Sonny Adé, mais Fela, et puis les enfants de Fela, et puis même nous autres. Et puis c'est quelqu'un qui vient du free jazz, c'est marrant. Hein,
c'est un sacré très voyage longtemps. Pour Messonnier. Et alors le côté Yoruba de la toi tu parles le Yoruba.
Ah oui, c'est ma langue.
Ah ben tiens, c'est ta langue, faut demander à Souleymane Akindele d'ailleurs, qui lui dit je suis Yoruba mais de Porto Novo. Il aime toujours préciser, il salue deux phrases et puis après il s'arrête en route. Toi non. Tu saluerais comment nos auditeurs ce dimanche?
Ah ko son benyo ni entem gbowa ni nitile toko. Ni bibobo tetting bawa, et cos, hein, et mi moufta ou badaou, ni monso, ni radio, Africa number one, et mi polo, Robert Braza, ti doyen manou, awa jobani, ni non radio.
Mais ben dis-le, on est avec toi, hein. Ça, ça te rappelle pas les fans du côté de.
Ah ben oui.
Celui qui est fan du Gabon et celui qui est fan du Cameroun, quoi.
Et du Cameroun. Et là, tu es compris par les deux côtés de la frontière.
Ah oui, bien sûr. De toute façon, les Yoruba, ils sont de part et d'autre de la frontière bénino-nigériane, mais pas que. Il y a aussi des Yoruba au Togo, parce qu'il y a la diaspora qui a essaimé un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et il y a de plus en plus maintenant beaucoup de Yoruba à Abidjan. Voilà. Et beaucoup, et même l'un des propriétaires de journaux, sur la place d'Abidjan.
Wakili à la fée.
Voilà, Kili à la fée. Il est d'origine Yoruba.
Et il le revendique.
Voilà. Ah, bah oui, il faut être fier de ses origines.
On le salue et on lui offre le Synchro System.
Du Bongo sur Africa numéro 1.
Synchro System avec le roi de la Juju Music, King Sunny Adé. Quand tu l'as vu récemment, Doyen Manou, tu disais, bon, il avait évidemment toujours le port royal. Il est plutôt en mode grand chef, il fait moins de disques.
Oui, ben il fait chef du village. il y a deux ans, la dernière fois que je l'ai vu, en fait, c'était quand on a reçu des awards, là.
Tout à fait, du côté du Nigeria.
Voilà, pour nos carrières respectives, lui, il était là. Et puis, Papa Wemba, à titre posthume, hein, sa femme est venue, sa veuve, du moins, elle est venue et... Parfois, quand on se retrouve, on a quand même des souvenirs communs. On a travaillé, on a joué en Europe ensemble. On a Waka Africa, il est dedans. Voilà, on est quand même des anciens capables.
Et même très capable parce qu'il a toujours ses fameuses guitares, d'où j'imagine le respect mutuel avec le Doyen Bokilo Jerry Malekani, parce que c'est toujours ce fameux jeu particulier qu'il a. Et la musique du côté du Nigeria ou du côté Yoruba de l'affaire, elle est toujours associée à la tradition et au culte. On entend souvent les Baba Oluwa, etc. Dedans.
Tout à fait, beaucoup de proverbes. Oui. Mais ce qui interpelle aussi, c'est le message transmis par le battement des talking drums. Parce que ça dépend de l'intonation qu'on donne au battement. Et en fonction des intonations, ça exprime
Les sonorités.
Tout à fait. Ça exprime un message, ça exprime des proverbes. Et il faut savoir décoder ça. Voilà.
C'est un peu comme le foulard des femmes. Hein.
Ah,
c'est exactement comme le foulard des femmes en Afrique. Ça dépend comment elles mettent ça sur la tête.
Absolument.
Il faut pas rentrer dans la voiture.
Absolument. Et puis même, il y a même des insultes qui sont proférées par les battements de talking drum. Ouais. Il y a une façon de jouer et il est en train d'insulter son rival, quoi. Même sans prononcer un seul mot, il est en train d'insulter quand même le rival, quoi.
Faudrait qu'on se penche sur les non-dits des notes.
Les non-dits des notes. Des Mamou, t'imagines un peu, les gens jouent devant la reine d'Angleterre. Bon, s'ils ont un litige avec les Anglais, ça doit pas être triste. Quand même de voir ça. Alors Mouftao est éclectique en musique puisqu'il a été pioché également dans la malle pour sortir le soir au village du Douala Manou.
Ah oui.
Qui te rappelle des bons souvenirs. Tu as quitté Douala quand toi d'ailleurs?
Ben non, enfin Douala, j'ai pas trop vécu à Douala. On va dire dans l'enfance, hein, j'ai quitté très tôt. Enfin, pas moi, le papa.
Les parents,
ils ont quitté, ils sont rentrés définitivement au Bénin. Voilà,
mais il y a quand même un air.
Tout à fait. Je garde quand même cette attache à Douala, au quartier New Bell, le quartier de l'hôpital La Quintini, le quartier de la pharmacie. Tout ça, ça évoque quelque chose en moi. Je suis un peu camerounais, béninois, mais aussi un peu camerounais. Tout à fait.
Oui, ben si tu es né là où ton cordon ombilical,
absolument,
c'est là qu'on l'a.
Absolument.
Voilà, donc.
Tout à l'âme fait. Voyageuse et commerçante, parce que finalement, toi. Il y a aussi le côté, en route toujours, quand on te voit, tu peux être dans des conférences, écrire des livres, le côté journaliste, avec le magazine aussi, parce que c'était pas évident de mettre sur pied un magazine ici en Europe.
Manager Afrique. Non, mais écoutez, j'ai pas besoin de motivation pour mener toutes ces activités. Quand on fait quelque chose qui vous passionne, comme dit quelqu'un, faites un métier qui vous passionne et voilà, quoi. Il y a personne qui me motive.
On voit pas passer le temps quand on est passionné.
On a même pas l'impression de travailler, quoi. Il y a Neymar, justement, bientôt la Coupe du Monde. Neymar dit, mais sa vie est vraiment chouette, quoi. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il fait un métier qu'il aime et on le paye pour ça. Le gars, il s'amuse et on le paye.
Il s'amuse bien.
Tout à fait. Et on le paye, il y a pour qu'il s'amuse.
Et plutôt bien.
et plutôt bien, des millions d'euros. Ah ben oui, c'est pas.
Alors toi, tu mets en lumière aussi les gens qui assurent. On l'a pas sous la main parce qu'il était resté sur le meuble à la maison. Le dernier numéro, en tout cas, de manager, qui met en avant des personnes et des personnalités aussi qui réussissent. J'avais été touché d'ailleurs parce que tu avais fait le portrait de plusieurs personnalités, beaucoup de portraits de dames ambitieuses. Contrairement à beaucoup de journaux au niveau de la presse africaine, on peut fouiller, il y a très peu de femmes en couverture de ces magazines. Toi, tu es un de ceux qui insistent à chaque fois pour aller puiser ces dames, avec notamment Laïka, la dernière.
Absolument, c'est fait exprès. Maladio a 11 ans, n'est-ce pas, d'existence.
On a
plus de 40 numéros, étant donné qu'on est bimestriel. Mais il y a au moins une vingtaine, voire même une quinzaine de numéros que nous avons consacrés, aux femmes, quoi. Non, c'est fait exprès.
Il faut nous envoyer un de temps en temps ici. Hein,
parce on va que faire des revues comme ça, des revues de presse, en parlant. Alors il y a ça, il y a également aussi l'autre côté qui est celui parfois mais d'être aussi assez dandy. On parlait tout à l'heure des vêtements. Tu es quand même parmi nos amis de la presse africaine et panafricaine, celui qui passe, et alors c'est pas dans les petits studios, hein, au niveau de tes photos, mon ami, sur le profil, on peut en parler, la Loupo, Hassan Diop, les autres et moi, de ce côté-là, tu ne te refuses rien. On n'est pas chez Harcourt, mais presque. Quand c'est pas type avec le chapeau, il est dans le rôle de cet agent secret.
Ça ne manque pas.
Il y a beaucoup de photos.
Ça ne manque pas.
C'est un autre Lémy Cochon, quoi.
Ça ne manque pas de piquant. Doyen Mano, vous mettez témoin. Quand c'est Robert Brazza, le dandy en chef.
Ah ouais,
qui dit ça,
quand même.
Ah ben, je suis humble, moi.
Si on fait le tour.
T'as qu'à regarder ces émissions, dis donc. Moi, je demande qu'est-ce qui t'habille.
Alors, en même temps, ce qu'il y a, c'est que toi, tu prends la pause un coup, c'est avec le cigare.
Oui.
Moi, il y a des pauses que j'aurais
bien. Ouais, c'est les personnages.
C'est des personnages de ton fameux, justement, Jimmy Boris. Tu te mets quand même, alors voilà, en avant.
C'est des petits moments de frime, quoi. C'est des petits moments de frime. Et non, aussi, pour brouiller un peu, les pistes.
C'est la règle du jeu. Hein.
Sinon, Badarou, au quotidien, normalement, je suis quelqu'un de très simple.
Absolument. Et on peut. On peut en témoigner. Tu veux que je te dise qui en fait te fait ce clin d'œil à travers nous, c'est Phil le montagnard qui lui aussi aime bien s'habiller et qui dit tiens ben voilà, vous êtes c'est pas un duel, je rassure nos auditeurs, mais c'est vrai que Phil parle à chaque fois en disant que tu es tiré à quatre épingles, mais on est content parce qu'il y a le contenu.
Ça, moi, il y a Oasis.
Ah ben Oasis Diop aussi.
Mais je trouve quand même que je suis moins tiré à quatre épingles que Robert Brazzard.
Ah ben parce qu'il faut pour l'obligation télé. Bon voilà.
Mais toi tu fais détective. Toi, on dirait Sinatra quoi.
Oui, voilà. Oui. Il y a le côté Sinatra.
Je me mets dans la peau de Jimmy Boris, mon héros. C'est cela aussi, ouais.
En tout cas, ce titre de Soir au village du Doyen Manou, eh ben, c'est une escale que nous, on apprécie toujours. Alors là, on l'écoute, ben, pas dans la même période de la journée, mais que ce soit à 10h, à midi ou alors le soir, c'est toujours bon à prendre.
Ah, il y a toujours le foufou, hein.
Oui, bidi 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 bidi.
Oh yeah.
Wa ba jam do biye. Oh oh.
Une voix se lève au lointain, invitant aux prières du soir.
Soir au village. Alors on en profite également pour ceux qui font ben, le système des 3-8 parce que c'est jamais évident. On parle souvent des magazines et autres. Dans les imprimeries, Doyen Manou, j'ai vu un reportage à la télé, il y a des personnes qui voient pas la lumière du jour. Hein. Quand ils sont toujours à la même enseigne, ils travaillent là, ils travaillent le jour, ils sont dans l'imprimerie.
Ça, les temps modernes, de Chaplin, quoi.
Chaplin, c'est un gros
toujours les mêmes gestes, quoi, tu vois.
qu'on leur fait, et c'est pas évident. On parlait de magazines tout à l'heure. Tu en as un à côté de toi, Doyen Manou, d'ailleurs, avec Blaise Matuidi et cette campagne du mondial qui finit le 14 juillet prochain.
Oui.
Blaise qui fait pas mal de choses parce qu'il y a le football, comme tu le dis, mais il y a également son association. Il est engagé au niveau de l'Angola, de la RDC, pour la scolarisation des tout-petits. C'est un des bleus qui s'engage le plus et qui a d'ailleurs dit que, comme Lilian Thuram, dans le futur, eh bien, il consacrerait une large partie de sa carrière pour l'engagement humanitaire. C'est pas mal.
Moi, tous ceux qui s'engagent là, tous ces jeunes-là, je leur souhaite d'avoir un environnement qui tient quand ça va moins bien, que ce soit toujours, par contre, l'engagement, que l'engagement soit de A jusqu'à Z, quoi. Parce que c'est souvent l'entourage où il y a des problèmes. Lui, il a plein de bonne volonté. Il peut pas tout faire. Donc, il y a une question de confiance. Il faut faire une équipe efficace. À la limite, son équipe doit être à la hauteur de ses pieds, quoi. C'est-à-dire efficace.
Et c'est bien parce que lui, il a choisi une personne qui est très proche de lui, très concernée, qu'il connaît bien. Ce n'est autre que sa sœur. Et qui est sur le terrain et qui s'occupait déjà de la réinsertion des jeunes ici au niveau de la France. Et ils ont donc créé le Conseil pour l'encadrement et la réinsertion des jeunes par le sport à Kinshasa. Et c'est pas mal parce qu'il fallait faire le voyage. Il l'a fait. Ben écoute, on te salue Blaise. Ici, tu passes dans le coin. Viens nous rendre
visite. Avec plaisir. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. C'est l'environnement qui comprend pas toujours. On est content de faire partie de la famille ou bien de l'environnement de Blaise et tout ça. Et on oublie qu'il faut faire le boulot. Lui, il fait le boulot, il faut que les autres fassent le boulot. Et je sais pourquoi je dis ça, c'est que souvent, les environnements sont un peu nauséabonds par moments.
Et oui, alors ce qui n'est pas nauséabond du tout, c'est toujours chez nos confrères de Et la Santé, on dit quoi, l'Afro Magazine, dans l'édition de janvier, parce que des fois, eh bien, on retrouve des unes et des numéros. Le Bénin est représenté dans cette émission. Il est aussi sur la couverture avec la Miss France 2014,
oui,
souvenez-vous.
Oui, oui.
La métisse, donc, Flora Coquerel, qui est née en Normandie, hein, avec une maman béninoise et un père français, et qui elle aussi, eh ben, après avoir vécu en Guinée-Conakry et un peu partout, se promène et continue, en tout cas dans ce qui concerne les projets professionnels et beaucoup d'autres choses. Elle a aussi redécouvert aussi ses racines à travers les projets qu'elle a menés, et notamment au travers de l'association Kélina, qui est une association qu'elle a créée le jour de ses 20 ans et qui met en avant des projets de solidarité avec le Bénin. Ça a été, dit-elle, une reconnexion avec son pays.
Ah oui, d'autant plus que elle les a découvertes son autre partie de ses racines quand ça commence à faire du bruit ici, parce que ça fait un certain bruit. Une fois qu'elle a été élue, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein.
Eh oui, ça ne l'est jamais pour ceux qui trouvent parfois que les Miss sont trop bronzées. On ne dira que cela, selon l'expression.
Ouais, comme Alexandre Dumas aussi.
Qui est un peu bronzé aussi.
Voilà, et que la personne qui le représente n'était pas du tout bronzée.
Salut Gérard Depardieu.
Cette histoire, jusqu'à présent, je rigole quoi. Imagine le contraire.
Ouais, il serait
Napoléon noir, tu vois.
Napoléon
par
noir.
Tu vois, qu'est-ce que ça devait, qu'est-ce que, voilà une fiction, tiens.
Ah, pourquoi pas?
Autre ouais, fiction à écrire, à évoquer.
De toute façon, le drapeau de la Corse, c'est toujours un noir, non?
Et dessus avec le bandeau.
Avec
à le signaler
bandeau.
D'ailleurs que les Corses étaient proposés de Hamanou il y a quelques semaines pour accueillir ce fameux bateau des 620 migrants ou 650 migrants que l'Italie avait refusé. La Corse avait interpellé le gouvernement français en disant, bah, écoutez, nous voulons les recevoir sur l'île de Beauté, mais il fallait l'autorisation du sommet de l'État. Ça a été quand même, on va dire, une annonce inattendue.
Oui, ça sent quand même. Mais enfin, bon, voilà. Cette histoire-là, jusqu'à présent, tu vois, Tito, je me pose la question. Quand ces bateaux partent avec ce nombre de gens-là, comment ils partent d'un port et que personne ne les voit? Moi,
ouais.
Je ne sais pas, moi, parce qu'ils partent d'un port quelconque. Hein, et on les voit que une fois qu'ils sont dans la mer, on les voit jamais au départ. Voilà. Et puis qui c'est qui achète ces bateaux là? Quand on sait que le prix d'entrée dans le club, c'est minimum 3 000. Ces gens qu'on voit là, c'est eux qui payent 3 000 euros?
Ouais.
Non mais je sais pas. On approfondit jamais ce problème de savoir comment ces gens ils quittent l'Afrique aussi nombreux maintenant. Qui a 10, 15 ans, personne n'aurait jamais pensé à avoir des boat people. Les premiers boat people qu'on a eu, c'était des Vietnamiens, des choses comme ça, il y a longtemps, hein. Je veux dire, comment ces gens quittent les ports africains aussi nombreux dans des bateaux comme ça? Parce que c'est quand même, tu vas à la mort, quoi. Tu payes ta mort, en plus tu la payes 3000, chaque cadavre vaut minimum 3000.
C'est des statistiques terribles, Mouftaou, ah ouais, toi qui ouais, es, ben voilà, bizarre, tu connais les rues de Paris comme nous, ça, je l'imagine, ça t'a forcément interpellé. Tu es quelqu'un de très très urbain, sans revenir sur la situation des migrants ou autres, les gens parlent, surtout après les expulsions, le camp des millénaires, etc., parlent toujours d'une chose avec laquelle il va falloir composer, et pendant longtemps, on l'a évoqué ici au cours de cette émission, ton regard par rapport à cela, toi qui connais les deux univers, et à partir du continent et ici.
Moi, mon sentiment, c'est que c'est un désastre. Hein. C'est un désastre, c'est une espèce de saignée à blanc de l'Afrique, quoi. Évidemment, quand les gens sont désespérés, ben, ils sont poussés à partir, mais c'est vraiment dommage pour l'Afrique que des personnes que s'en aillent comme ça. Si tout le monde prend la mer, si tout le monde s'en va,
Que tu crois réellement que les gens sont aussi désespérés que ça maintenant et pas avant? Est-ce que ça a changé à tel point que les gens ils savent qu'ils vont à la mer? Il y a quand même tout le monde.
Mais en fait, l'explication que je donne au phénomène et qui rejoint un peu la thématique de mon roman, c'est justement la chute de Kadhafi. Mais en fait, les départs se faisaient, mais ça n'avait pas la même ampleur.
Mais c'était pas industrialisé, on va dire.
Exactement. Il y avait ce qu'on appelle quand même une espèce de verrou, une espèce de tamis que constituait la Libye. Mais dès que le pouvoir de Kadhafi est tombé et que la Libye se trouve complètement déglinguée, eh bien, elle est devenue une passoire.
Ça fait que ça fait que les drones là ne voient plus rien.
mais après, les drones
ils ne voient rien.
Les drones voient. Les drones
et
voient.
Et ne signalent pas.
Les drones voient.
Peut-être. Et les autorités dans les pays voient quand même le commerce. Il y a du commerce de nourriture, du commerce de passeurs, du commerce au niveau de l'hébergement. On a parlé d'une industrie
clair,
au niveau
histoire.
Du Niger,
c'est pas
par
clair.
Exemple.
Oui, mais il y a quand même quelque chose de criminel dans il y a un aspect criminalité dans l'organisation. Voilà, il y a un aspect mafia parce que c'est des bandes très organisées.
Très organisées, ouais.
Le doyen Manou soulevait la question de savoir mais comment ça se fait que les gens y partent des côtes sans éveiller mais c'est parce que justement les bandes organisées ils surveillent aussi les côtes. Ils profitent
ils sous-doient les policiers, alors.
Ou ils sous-doient les policiers.
Parce que, il faut dire les choses comme elles sont. C'est impossible.
Ils profitent d'un relâchement de la sécurité pour partir, pour prendre la mer. Voilà. C'est des gens très organisés qui sont sans cœur. Hein.
Et ici, on n'appuie pas sur ce volet. On appuie sur le volet que les gens partent.
Tout à fait. Il y a aussi quelque chose de dramatique. Quand les gens sont, les bateaux, les embarcations sont arraisonnés en mer, et ces trafiquants n'hésitent pas à jeter les gens à la mer.
Oui, bien sûr.
Pour se laver les mains.
Bien sûr. Se laver les mains.
Et ça, c'est.
Donc, moi, je sais pas comment, s'il y a enquête, il y a, toi qui es dans les enquêtes, tiens, voilà, parce que c'est une enquête, ça. C'est pas possible que les gens, on les jette à la mer. Forcément, on le sait qu'on les jette à la mer. Mais moi, je, avec tous les satellites qu'il y a en haut qui peuvent trouver une épingle à terre, on n'arrive pas à trouver le départ des machins, la signalisation des uns des autres. Je sais pas, tout le monde est mouillé dans une sale affaire. C'est sale affaire, ça.
Eh oui. Ce cri, en tout cas, vers ceux qui, on les voit dans les gares, en ville, partout ailleurs. Aucun des pays d'Europe n'est épargné. Et malgré l'arrivée d'un gouvernement plutôt d'extrême droite au niveau de l'Italie, les choses ne changeront pas de toute façon, puisque on parle du point de départ et pas du point d'arrivée. C'est une réflexion, en tout cas, qui devait être faite également ce dimanche. Et la carte blanche de Mouftaou Badarou, qui est avec nous, c'est également le titre de celui qui, à l'époque, était le conquistador. Il avait la fleur, la lèvre.
Le Rambo.
Le Rambo du Zaïre. Il s'agit donc de Kofi Olomide. Et tu as choisi le morceau Henriquet, qui est un des titres qui évoquait une des mises du Congo, Carole Henriquet.
Et ça, je ne le savais même pas.
Ah ben voilà, pour moi, la petite histoire.
Je vibrais à la mélodie, voilà.
Mon pas au Sarkozy.
Oui, qui a changé de nom depuis le temps.
Tout le temps, bon. Tout le temps. Maintenant, c'est Kofi Gassama. Mais lui, en fait, il change, c'est enfin, un vrai caméléon, ouais. Quoi. Tout
le au, temps. Au gré du vent, et qui est du côté de Kin ou d'ailleurs.
Ce soir, bon, pas au Macron, il n'y a pas loin.
Alors ce morceau, il a quand même, ben, ça fait peut-être, oui, ça fait déjà 32 ans que Henriquet est sorti. Enfin, c'est cette période-là. Il était encore voix et guitare. Il y avait beaucoup de personnes comme ça qui le découvraient avec la plume. Et ça a été d'ailleurs ce qui l'avait fait repérer parmi les ambianceurs qui étaient Zaïko et beaucoup d'autres.
Oui, tout à fait. Mais Kofi, c'est un monument de la musique. Hein, c'est comme les Doyen Manou. Hein, c'est... Bon, après, maintenant, c'est vrai qu'à un moment, ben, il a cessé de faire de la musique, de la rumba, que beaucoup de personnes affectionnent. Mais je pense que c'est son dernier morceau, justement. Son dernier disque, il est revenu à la bonne source.
Oui,
quoi.
Il est beaucoup plus rumba. Oui. Il y a toujours eu, c'est vrai, après, c'est le fameux générique où il y a le botin, comme dit le Doyen Manou, qui est très rentable. Et puis, il y a les autres morceaux de l'album où il y a des ballades qui sont vraiment des ballades, des titres exceptionnels. Et ils se font de temps en temps de concerts où ils ne chantent que d'autres répertoires.
Oui.
Où ils chantent Cimaro, où ils chantent Taboulet Rochero. Il a une salle de spectacle du côté de Kinshasa, le Saint James Hall, qui est un endroit où, ben voilà, il gratifie son public des fois de ses morceaux. Eh ben, on va écouter Henriquet. C'est le choix de Mouftaou Badarou. Et c'est bien Kofi Olomidé qui chante. Je vous rassure. De Kofi Olomidé, extrait de l'album du même nom. Alors c'était les belles années de Sonodisc, La Rue Fondari, Marcel Perse et tant d'autres. Il y avait quand même une émulation au niveau de ce label, ben, qui a duré très longtemps, hein, Doyen Manou.
Ben, l'émulation était là parce que le numérique n'était pas encore là, le son qui se développait et puis les chansons avaient toujours une signification. On n'en était pas arrivé encore à, je sais pas, à confier nos destins aux machines. Il y avait encore l'homme derrière, tu vois. C'est une époque où les artistes, réellement, ils étaient différents les uns des autres. Maintenant, la machine a fait que la boîte à rythme, c'est le même son pour tout le monde. Donc, on est prisonnier, c'est une réflexion terrible de ce qui arrive à l'Afrique. C'est bien qu'on saute beaucoup d'étapes pour arriver au numérique, ça facilite, mais alors, en même temps, on est prisonnier, hein, je veux dire. Tu mets ton truc à 180, à 120, à 130. Et ces sons-là, ils sont tellement numériques qu'on se fatigue, on se lasse très vite d'écouter ces musiques-là. Et que ton disque, si tu as la chance, on l'écoute pendant un mois et puis on passe à autre chose. Les enfants, c'est pire parce que c'est tous les 15 jours qu'ils écoutent quelque chose de nouveau. Avant, avec le son qu'on avait, l'acoustique, donc, on pouvait écouter un disque pendant, je sais pas moi, 10, 15, 20 ans, ça ne dérangeait personne. Les fréquences qu'on fait maintenant, les fréquences, c'est comme pour les voitures, ou comme les frigidaires, ça dure 5. les frigidaires, c'est 5 ans, il faut les changer. Les voitures, c'est 5 ans. Voilà, tout ça, c'est programmé. La faim, la lassitude est dans le prix de l'achat de ton disque. Tu te lasses très vite. Et tu comprends, les boucles, en plus que les uns et les autres, ils ont des boucles. Je ne veux pas aller du côté technique, mais enfin, il y a des boucles qui font qu'une fois que tu as compris le... Et malheureusement, tu comprends très vite la boucle. Donc, tu te lasses très vite. Et toi-même, avec ton ordinateur, tu peux fabriquer des choses à la maison sans avoir appris réellement la musique. Et ça se sent à un moment donné, parce que la lassitude vient du fait que c'est une écoute facile qui te demande rien d'autre que le premier accès à la musique physique, le côté physique. Le côté, disons, intellectuel n'entre plus en jeu maintenant, parce que, en plus, les paroles, je m'excuse de prendre le temps comme ça, mais les paroles, elles n'existent plus. Tu as une phrase qui fait la boucle, c'est-à-dire, tu peux aller fumer ta cigarette, tu reviens, tu as cette phrase qui fait danser tout le monde, et donc, il n'y a plus de texte, il n'y a plus de message, il n'y a plus de compte. Les comptes, les scénettes que tu avais dans les disques avant, tu les as plus maintenant.
Et oui, et tout ça en 3 minutes 50 pour la programmation. Mais la musique et la culture, tiens, ça pourrait être une question philosophique pour nos amis du bac qui attendent impatiemment leurs résultats. Mais alors, entre-temps, si vous vous ennuyez et si vous voulez découvrir une œuvre, qui est une œuvre, à mon avis, qui va vous faire plonger dans un autre univers, vous pouvez l'emmener également à la plage ou partout où vous allez en vacances. La Vengeance d'Aïcha Kadhafi, service secret français, signé donc de Mouftaou Badarou, aux éditions Licht. Alors j'ai envie de dire Licht, c'est le côté germain. Licht. Et n'oubliez pas qu'il y avait également aussi, en ce qui concerne les ouvrages, Panique à Cotonou et Putsch à Libreville, pour compléter votre collection. Quand même, parce que ça, c'est ce qu'on appelle un sacré bouquin. Et puis, on t'encourage, hein, Mouftaou, vraiment, à aller toujours faire.
Et aller vraiment à rue des écoles.
Merci.
Oui. Salut, en tout cas, et gros clin d'œil d'ailleurs à Madame Diop, voilà. À Présence Africaine. Et
la divine, la divine, la divine.
La grande dame. Et oui, nous, on se retrouve dimanche prochain avec Valentin, Maxime et à la manette et toute l'équipe. On fait un gros clin d'œil à François Richard. Et puis, ce sera à 10h sur les 107.5 FM.
Et comme d'habitude,
Africa numéro 1.